s'appelait Jean-Yves Leclerc. Il était mécanicien dieseliste pour la DCN. Il y était rentré très jeune. C'est la grosse entreprise, on va dire, de Cherbourg, et qui était une industrie d'État à l'époque de l'attentat. Donc, il est parti à Karachi sur la base du volontariat pour améliorer les finances familiales et, entre autres, financer les études de ma sœur, comme il l'avait fait pour moi. Et dans le cadre du transfert de technologie qui avait été mis en place par la direction des constructions navales autour des sous-marins Agosta. C'était quelqu'un de simple et qui le revendiquait. C'était quelqu'un qui était fier de son statut d'ouvrier. J'ai appris après sa mort, de la bouche de ma mère, en fait, que quelques mois auparavant, papa avait sauvé la vie d'une personne âgée au port de Carqueville, où il avait ses habitudes puisqu'il y avait un bateau. Il nous en avait même pas parlé à nous parce qu'en fait, il aimait pas se mettre en avant. C'était quelqu'un de simple, quoi, qui aimait vivre dans son quartier, qui aimait la nature, qui aimait la pêche, qui aimait passer du temps en famille, qui aimait les autres, quoi, tout simplement. Voilà.
Votre vie bascule le 8 mai 2002. Il y a 8 ans de ça.
Alors c'est ma mère en fait qui a entendu l'annonce de l'attentat à la radio assez tôt dans la matinée. Elle a attendu 8h30, 9h également pour me prévenir par téléphone. C'est vrai que sur le coup, j'y ai pas cru. Je pensais qu'on aurait des informations plus personnelles de la part de DCN s'il y avait eu réellement quelque chose. Et en allumant la télé, effectivement, j'ai vu les dépêches tomber qui se faisaient de plus en plus précises. La DCN, les ouvriers, le bus. Et donc a commencé une attente assez longue et assez cruelle, durant laquelle on a essayé de joindre plusieurs interlocuteurs, que ce soit la préfecture, la cellule de crise, l'ambassade du Pakistan, l'hôtel au Pakistan. Personne ne savait, ou en tout cas beaucoup nous disaient ne pas savoir, et qu'il fallait attendre sagement l'arrivée des officiels de la DCN, qui faisaient le tour des familles décédées. Donc en ce qui nous concerne, ils sont arrivés vers midi et quart, je crois, chez ma mère et ma sœur. Bon, ils n'ont pas eu besoin de parler, elles ont tout de suite compris que c'était terminé.
La France était-elle expressément la cible ou s'agit-il d'une attaque contre la coalition à travers l'un de ces pays?
TF1, 9 mai 2002.
La question demeure chez les enquêteurs, car ce n'est pas le premier attentat anti-occidental au Pakistan ces derniers mois. Depuis, les Américains s'étaient mieux protégés ou ont quitté le pays. Le bus des Français était peut-être une cible simplement plus facile. Des groupes islamistes ont pu vouloir à la fois déstabiliser le Pakistan et frapper un pays de la coalition.
Dès les premières minutes avec la direction des constructions navales, dès les premières rencontres avec les officiels, comment ils expliquent cet attentat?
Alors là, ils ont été tous très unanimes. C'était Al-Qaïda, une frappe aveugle, et d'ailleurs qui n'était même pas destinée aux Français, puisque globalement, certainement qu'Al-Qaïda s'était trompé de cible.
Ah bon, Ben Laden, il avait fait une petite erreur, il avait confondu des Français avec des Américains.
Voilà, alors il est vraiment pas très judicieux, hein, si vraiment il a fait une erreur, parce que quand même un bus rose marqué Pakistan Navy, en gros, je crois qu'il n'y avait que les Français qui circulaient de cette manière à Karachi, puisque justement il n'y avait que les Français, enfin que la DCN, pour ne pas avoir pris des solutions un petit peu plus lourdes pour sécuriser ces expatriés.
Quand on vous dit c'est Al-Qaïda, mais Ben Laden s'est trompé de cible, il a visé des Français à la place des Américains. Vous...
Dans un premier temps, il faut se dire que c'était quand même quelques mois après les attentats du 11 septembre. C'était le Pakistan, donc avec, on le sait, c'est quand même un bon vivier de terroristes islamistes. On y a cru. Dans un premier temps, on y a cru, les premiers jours en tout cas. Et puis petit à petit, quand même, on a trouvé que c'était un peu étrange, parce que Al-Qaïda qui se trompe de cible, bon, c'est un peu bizarre. Al-Qaïda, ils avaient quand même l'ambition, si je puis parler ainsi, de faire plus de victimes, alors que là, le nombre de victimes potentielles, c'était une quarantaine de personnes. Et puis surtout, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, Ben Laden n'a jamais revendiqué l'attentat. Il s'est juste félicité des actes terroristes, dont Karachi, mais c'était parmi d'autres. Il n'y a jamais eu de revendication officielle.
Là naissent les premiers doutes.
Naissent les premiers doutes, voilà. Donc ça, c'est les premiers doutes qui concernent donc l'enquête en elle-même. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'éléments dans le dossier, comme par exemple des contradictions sur la nature de l'explosif, que Jean-Luc Bruguière n'a pas cru bon de relever, hein, tout de même, mais qui nous ont mis un petit peu aussi la puce à l'oreille. Et puis, l'élément aussi important dans notre prise de conscience, ça a été la manière dont on a été géré. À un moment donné, on s'est dit, mais quand même, pourquoi est-ce que nous, finalement, victimes, alors qu'on ne demande pas grand-chose à part être tenus au courant des avancées de l'enquête, pourquoi est-ce qu'on est traité de cette manière? Et on a commencé à sentir que quelque part, c'était pas normal, quoi, ce qui nous entourait.
Il y a une phrase, lors de la cérémonie officielle à Cherbourg, il y a une phrase de Jacques Chirac, qui est à l'époque président de la République, et qui dit « Nous ne céderons ni à la menace, ni au chantage ».
pourquoi parler de chantage? Pourquoi adresser